Quiconque suit un peu l'actualité internationale a dû remarquer que ça commence à chauffer sérieusement en France. Là-bas, comme ici, le peuple est aux prises avec des plans d'austérité pour faire payer la crise aux classes populaires. En France, la goutte qui a fait déborder le vase est une réforme des retraites qui vise à allonger le temps de travail de 2 ans. Et on a avec nous Théo, un camarade d'Alternative Libertaire, pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, t'es syndicaliste, je crois, puis présenter brièvement Alternative Libertaire à nos auditeurs?
Ouais, tout à fait. Donc moi, je suis Théo. Je suis syndicaliste donc dans l'éducation nationale, dans un syndicat qui s'appelle Sud Éducation. Je suis également militant d'Alternative Libertaire. Donc Alternative Libertaire, c'est une organisation communiste libertaire, en gros anticapitaliste et autogestionnaire, révolutionnaire. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a mis le feu aux poudres en France? C'est quoi le projet de réforme des retraites? Ici, dans les médias, on nous dit juste que les Français ne veulent pas travailler jusqu'à 62 ans, ce qui fait rigoler un peu tout le monde parce que l'âge de retraite ici est un peu plus élevé que ça. J'imagine que c'est plus complexe que ça.
Oui, c'est plus compliqué que ça. En fait, la question, c'est simplement que l'âge de départ légal à la retraite, il était de 60 ans. Le gouvernement a décidé donc de passer cet âge-là à 62 ans. Et effectivement, ça a servi de déclencheur, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, depuis la crise financière, on voit un gouvernement qui est complètement au service des riches, une bourgeoisie qui est à l'affût sur tout ce qui peut voler aux classes populaires. Et dans ce cadre-là, la loi sur les retraites, elle a apparu comme une provocation supplémentaire et comme une provocation de trop. Et c'est pour ça que ça a donné le feu aux poudres. C'est simplement, finalement, en creux, derrière la question de la retraite à 62 ans, en creux, ce qu'il y a, c'est la question de la redistribution des richesses, du partage des richesses et d'un autre partage des richesses où ce ne sont pas toujours les plus riches qui se servent, mais effectivement que les salariés puissent récupérer un peu du produit de leur travail.
Juste pour préciser, là, les gens, ils partent pas à la retraite à 60 ans de toute façon.
Oui, de toute façon, en France, les gens ne partent pas à la retraite à taux plein, c'est-à-dire avec leur retraite intégrale à 60 ans, parce qu'il faut avoir cotisé de toute façon un certain nombre d'annuités, donc 42 ans, et ces 42 annuités, si on les a pas, on n'a pas une retraite à taux plein. Donc, de toute façon, aujourd'hui, et en plus, il y a plus grave que ça, il y a même plusieurs milliers de salariés qui n'arrivent même pas à ces 60 ans parce qu'ils sont mis au chômage avant ou qui sont tout simplement en pré-retraite parce qu'on leur dit qu'il n'y a plus assez de travail pour eux, alors que, c'est pas vrai du tout, bien sûr.
Donc, dans les faits, ce que ça fait, c'est que ces gens-là n'ont jamais droit à une retraite pleine et entière.
Non, voilà, pas le droit à une retraite pleine et entière. Donc, pour nous, c'est simplement, on peut pas accepter un recul social de cette ampleur-là, alors qu'aujourd'hui, en France, de l'argent, il y en a. Hein. Les entreprises françaises du CAC 40, elles ont fait 212 milliards d'euros de bénéfices.
Excuse-moi, c'est quoi le CAC 40?
Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises.
Ok, d'accord.
Voilà, et elles ont fait 212 milliards d'euros de bénéfices entre 2007 et 2009, alors que c'était les 3 ans soi-disant de crise. Hein. Donc, de l'argent, il y en a. Qui plus est, nous, on a aussi en France une politique de fiscale, donc des impôts, vraiment en faveur des riches. C'est-à-dire que on empêche finalement les riches de payer des impôts aujourd'hui. On leur fait même des cadeaux, donc c'est le fameux bouclier fiscal que le président Sarkozy a fait voter. C'est quand même près de 3 milliards par an, ce bouclier fiscal. C'est de l'argent qu'on donne aux riches, qu'on rend aux riches.
Et on va aller en chercher un peu plus dans les poches des classes populaires, finalement.
Eh bah oui, au final, par contre, tout cet argent qu'on rend, c'est de l'argent en moins pour les services publics, pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour tout ça. Hein. Voilà, donc là, il y a... Et puis, maintenant, pour nos retraites aussi. Donc, pour nous, il y a tout simplement... Finalement, c'est une question de classe. Hein. C'est la classe sociale qui est la nôtre. Elle est en train de se faire attaquer vigoureusement par la classe capitaliste. Et il n'est pas acceptable qu'on puisse laisser passer ça.
Parle-nous donc un peu de la lutte, là. Comment ça s'est développé? Est-ce que vous aviez vu ça venir, ce qui se passe en ce moment?
Et pour être très franc, y compris chez les syndicalistes, on n'avait pas mesuré à quel point cette question-là des retraites pouvait être mobilisatrice. Bon, je pense qu'il y a un climat. Hein. Il y a eu ce qui s'est passé en Grèce. Il y a eu la crise. Il y a le fait que les salaires sont de plus en plus réduits. Donc tout ça, ça a servi de déclencheur. Mais c'est vrai que on n'imaginait pas ça. On n'imaginait pas des millions et des millions de salariés qui se mettraient en grève, qui manifesteraient comme ça. ça, puisque tout a commencé finalement même à l'été dernier, hein, la première grande manifestation en France c'était le 24 juin et on avait déjà 1,5 million de manifestants dans les rues. Aujourd'hui on fait pas une seule grande manifestation en France sans 3 millions de manifestants dans les rues.
Sur combien de salariés à peu près?
Alors le nombre de salariés en France c'est de l'ordre de entre 30 millions quoi, en gros.
Ok, donc c'est quand même une personne sur 10.
Ah oui, c'est très très important. Hein. On est dans un mouvement de fond, dans un vrai mouvement de colère générale. Et c'est ce qui fait que le pouvoir a du mal à faire comme si ça n'existait plus. Le président Sarkozy avait dit en France, quand il y a une grève aujourd'hui, plus personne ne le remarque. Il avait dit ça il y a une année. Quand on voit aujourd'hui les 3 millions de manifestants que les syndicats mettent dans la rue à chaque fois qu'ils les appellent à y descendre, on peut difficilement dire qu'on ne voit plus les grévistes en France.
Comment ça s'est développé un peu là? Si je comprends bien, vous n'êtes pas en grève générale, mais c'est tout comme.
Alors, on n'est pas en grève générale dans la mesure où de très nombreux secteurs donc d'activité continuent à être à travailler. On a des secteurs qui sont très fortement engagés dans la grève reconductible, c'est-à-dire qui votent chaque jour la grève par période de 24 heures. Donc c'est le cas à la SNCF, donc c'est les trains. C'est le cas également dans les raffineries, donc les raffineries qui nous permettent d'avoir de l'essence, qui là, depuis peu, il y a 3 raffineries qui ont repris le travail sur 12, mais il y a encore 2-3 jours, c'était les 12 raffineries françaises qui étaient en grève. Donc ça a créé des pénuries de carburant très importantes, ça continue d'en créer, et de toute façon, la majorité des raffineries françaises étant encore en grève, on est dans une situation où effectivement l'économie du pays est réellement gelé, endormi par cette grève. Alors c'est une grève générale sans en être une, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a l'esprit de la grève générale. Qu'est-ce que c'est que la grève générale? C'est quand les travailleurs ils décident de croiser les bras et que lorsqu'ils croisent les bras, ils montrent bien que c'est eux qui produisent les richesses et que s'ils ne le font pas, eh ben la société ne marche pas. Hein. Donc c'est bien eux qui font tourner la société. Donc on est vraiment dans cette dimension-là et en même temps, il y a encore des réserves très importantes chez les travailleurs et les travailleuses françaises qui peuvent rentrer dans l'action et permettre d'aboutir vers un mouvement encore plus fort.
Et là, la lutte, là, comme on la voit en ce moment, ça a l'air de dépasser le cadre plutôt traditionnel des manifestations. Ça prend des formes inédites ou presque. Est-ce que c'est nouveau l'action directe dans ce genre de lutte-là qui est plus politique là?
Alors, ce qui est nouveau, c'est effectivement le recours à... Alors, en France, on appelle ça les blocages, y compris dans la presse, c'est mentionné comme tel. Ils disent donc c'est la stratégie du blocage, c'est les blocages.
Ouais, ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier, parce que vu d'ici, on comprend pas trop, parce qu'ici, une grève, ça implique nécessairement un blocage, une ligne de piquetage, là.
Oui, alors nous, les grèves, si, elles bloquent la production là dans les secteurs où ils sont. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on a des, comment dire, comme des commandos de grévistes, mais alors des commandos à 200, 300, 400 personnes, qui vont aller bloquer un nœud routier. Qui vont aller se mettre à un nœud routier, une route nationale, une grande route, qui vont s'installer là et bloquer le passage, donc la circulation, etc. Des grévistes, donc là encore, 200, 300, qui vont aller bloquer un dépôt de carburant. C'est-à-dire que c'est pas les salariés du dépôt de carburant qui vont bloquer le site, c'est des salariés en grève d'autres secteurs. Et donc cette stratégie-là, c'est presque de la guérilla, en fait, que les grévistes français mettent en place. C'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. Effectivement, c'est complètement dans la tradition de l'action directe. Nous, on en est très satisfaits. On espère qu'on pense qu'effectivement, c'est ces actions-là qui sont des actions de masse. Hein. C'est pas des actions de quelques illuminés. C'est vraiment des actions qui sont portées par des grévistes par centaines, associées à un mouvement fort de grève, c'est-à-dire de cessation du travail collective et majoritaire dans des secteurs professionnels importants de l'économie française, c'est des choses qui peuvent faire basculer et nous faire finalement gagner, remporter une victoire sociale.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... Ça change pas grand chose, c'est dans la rue que ça...
passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand s'énervent les enfants. C'est dans la rue que ça se passe quand les rejoignent les parents. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue.
De retour à Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, on est toujours en entrevue avec Théo, militant syndicaliste d'Alternative Libertaire. Là, en ce moment, on se demande la mobilisation en est où. Si on regarde les journaux, Sarkozy a l'air de tenir son bout. Corrige-moi si je me trompe, mais la loi a été votée la semaine dernière. C'est quoi là, les prochaines étapes pour élargir la mobilisation? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on s'en va vers un essoufflement inéluctable?
Alors, on va vers... Il y a encore des dates de manifestation. Hein. Il y a une date de manifestation jeudi, là, jeudi 28 octobre. Donc, on espère encore réunir plusieurs millions de salariés dans les rues françaises. Alors, par contre, c'est vrai que la mobilisation marque un peu le pas, parce qu'on est dans une période aussi de vacances scolaires et qu'on avait eu le renfort, notamment dans la mobilisation de la jeunesse, donc des lycéens et des étudiants, et que ça, là, en l'occurrence, pendant les vacances, bon, ben, ils sont moins disponibles, les jeunes, parce qu'ils sont avec leurs parents, etc., alors que d'habitude, ils sont en cours et ils font de la grève des cours, en fait. Donc, là, oui, on espère continuer à réussir à mobiliser. Maintenant, après, la loi, qu'elle soit votée ou pas, si le mouvement continue à se massifier, si le mouvement continue sur ses actions radicales, ses blocages, etc., on aura de toute façon un rapport de force qui obligera le gouvernement à revenir sur sa loi. Nous, de toute façon, notre objectif, c'est bien de construire un mouvement de grève reconductible et général pour gagner et pas pour témoigner.
D'accord. Et là, en ce moment, Alternative Libertaire, c'est quoi justement les alternatives que vous mettez de l'avant et puis quelle réception ça a?
Alors nous, moi là, je te parlais surtout au niveau syndical, puisque pour beaucoup de militants d'Alternative Libertaire, on est des militants très investis dans le syndicalisme français, souvent dans les syndicats sud, mais également dans le principal syndicat français qui est la CGT. Donc déjà, nous, c'est d'abord ça, hein, c'est de développer les grèves, les coordonner, les impulser là où elles n'existent pas encore, et puis ensuite, on fait un travail de propagande, donc en faveur de l'auto-organisation de la lutte, en faveur de la grève générale et en faveur effectivement des stratégies d'action directe, de blocage. On dit que c'est effectivement ça qu'il faut faire, quoi. Voilà.
Et c'est bien reçu?
Oui, alors très très bien reçu, hein, dans les manifestations, lorsque les camarades diffusent les tracts d'Alternative Libertaire, les manifestants, on est complètement au diapason, hein, on est vraiment sur la même longueur d'onde que la majorité des gens qui manifestent.
Ok, si ça dérange pas, j'aurais quelques questions qui ont été suggérées par des auditeurs. Ben, d'abord, il y avait la question, on voit, il y a des secteurs qui sont en pointe, et il y en a d'autres un peu moins, et puis les gens se demandaient, c'est qui résiste à l'élargissement du front, qui n'ose pas embarquer?
Alors, donc, si j'ai bien compris, la question, c'est de savoir quels secteurs sont pas vraiment dans l'action et pourquoi ils rejoignent pas l'action.
Oui.
Oui, alors les secteurs qui rejoignent pas l'action, le problème c'est que Il y a quelque chose en France qui tient aussi à ce qu'on a appelé la grève par procuration. Ça s'était prévu donc lors d'un grand mouvement social français, celui de novembre-décembre 1995, qui avait relancé un cycle de lutte, un cycle de contestation. Et lors de ce grand mouvement-là, on avait dit que les cheminots faisaient grève, donc c'est les conducteurs de train, faisaient grève par procuration pour les autres, en fait. Et là, on est un petit peu dans cette dimension-là. Alors, les syndicalistes de lutte essayent d'élargir la grève, essayent de faire rentrer, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est plus timide. Moi, pour ma part, je travaille dans l'éducation nationale, par exemple, dans le secteur de l'éducation, il y a des endroits où il y a de la grève reconductible, il y a des endroits où il y a des assemblées générales de grévistes dans des grandes agglomérations urbaines où ils se retrouvent à 200 et ils votent la grève reconductible, mais c'est vrai que ça représente pas la majorité de la profession. On n'est pas dans la situation, ou même une portion significative de la profession, comme c'est le cas pour les cheminots, et bien sûr comme c'est le cas pour les travailleurs des raffineries françaises, qui là sont quasiment ultra majoritairement en grève, quoi.
Là, justement, on entend beaucoup parler de l'énergie, du transport, des écoles, mais est-ce que les grèves touchent d'autres secteurs comme la métallurgie, l'industrie manufacturière, l'automobile, la construction?
Pour ce qui est du privé et de ce que nous on appelle le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises effectivement industrielles, etc., toutes ces entreprises-là se joignent en fait à la mobilisation, mais plutôt sur les journées de grève ponctuelles, c'est-à-dire que sur toutes les journées, ce qu'on appelle les journées d'action, donc là la prochaine c'est le 28 octobre, celle d'avant c'était le 19 octobre, avant on en avait une le 12 octobre, ensuite le 23 septembre, le 7 septembre, et sur chacune de ces grandes journées de manifestation, on a des salariés, des industriels qui se mettent en grève, parfois quelques heures, parfois la journée entière, pour venir manifester et puis pour apporter leur soutien au mouvement de grève reconductible dans les autres secteurs. Et on a aussi des salariés d'industrie qui participent aux actions de blocage sur les journées de grève. Ils ont leur journée, ils sont grévistes, et plutôt que de faire une grève où ils vont juste manifester, ils font une grève active où ils vont effectivement mener des actions coup de poing comme celles qu'on connaît avec les blocages de dépôts de carburant, par exemple.
Dans le même ordre d'idée, il y a eu l'an dernier, je crois, un grand mouvement de sans-papiers, de grève de sans-papiers, et il y avait quelqu'un qui se demandait si les sans-papiers participaient à la lutte actuellement.
Alors oui, on a dans les cortèges, c'était notamment, c'était très localisé, la grève des sans-papiers, c'était quasi essentiellement à Paris, c'était tenu les piquets de grève, et sur les cortèges parisiens, notamment de Solidaires ou de la CGT, on a des délégations de grévistes sans papier qui sont encore pour certains dans l'action, puisque pour certains la régularisation tarde à arriver, et donc on essaye de maintenir avec ces grévistes là le rapport de force.
Deux petites dernières questions. On se demandait c'est quoi la trame sonore de la révolte. Qu'est-ce que vous écoutez dans les manifs?
La bande son de la grève. On écoute beaucoup de choses. Moi je peux te parler de ça dépend des cortèges. Il y a des traditionnels pastiches, c'est-à-dire qui reprennent des chansons du répertoire classique de la chanson française en les détournant. Il était un petit navire, des choses comme ça, qui deviennent il était un petit ministre, etc. Et puis par contre on peut compter aussi sur une scène de musique alternative en France. Je pense au ministère des avis populaire, je pense à Kenny Arcana, je pense à ces gens-là qui produisent des la compagnie Joli Môme aussi, qui est une compagnie de théâtre engagée, et qui produisent des chansons presque faites pour les manifestations, et qui est donc qu'on diffuse en musique. Et puis après sinon on est aussi on aime beaucoup aussi gueuler des slogans, donc
oui,
la bande
évidemment.
Elle est aussi artisanale.
Et finalement, c'est bizarre un peu, mais on en a entendu parler ici pour une raison qui m'échappe. Là, il y a des personnalités qui vous appuient. On a entendu parler, entre autres, d'une déclaration de Bruce Willis. Est-ce que ça a un impact, ça, quand il y a des gens comme ça qui sortent pour...
Alors moi, je savais pas du tout que Bruce Willis s'était déclaré... ça a pas plus d'impact que ça. Je pense que là, pour ce qui est des la mobilisation telle qu'elle se construit, elle se construit pas autour d'une personnalité ou par rapport à en référence à des grands leaders charismatiques. Elle se construit vraiment dans dans l'action gréviste quotidienne et dans le fait de se retrouver entre grévistes en assemblée générale quotidienne. Et bien sûr, on est attentif aux déclarations des uns et des autres, hein, notamment des grands leaders syndicaux français, hein, par exemple Bernard Thibault pour la CGT. Et puis des fois, on est aussi très critique vis-à-vis de ce que nous disent ces grands leaders. Mais ce qui compte, c'est vraiment la manière dont les salariés sont en grève au quotidien chaque jour, parce que finalement, ce qui est important, c'est de savoir comment son camarade qui fait le même métier que soi et qui perd le même salaire que soi, il va se déterminer. Hein.
D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que une question que je t'aurais pas posée, quelque chose que tu voudrais rajouter?
Pas spécialement, hein, si ce n'est pour dire que y a quand même des choses très très importantes. C'est sur le poids de la jeunesse. Je pense que c'est quelque chose d'assez important qu'on a vécu dans ces dernières semaines. C'est effectivement l'entrée des lycéens, donc des jeunes entre 15 et 18 ans, et des étudiants là qui sont en train de prendre leur lait, donc ceux qui sont à l'université. Et ça, c'est quelque chose aussi qui casse un peu le discours gouvernemental qui nous disait qu'ils faisaient une retraite pour l'avenir des jeunes, hein, pour qu'ils aient une réforme pour l'avenir des jeunes, pour que ces jeunes-là aient une retraite. Et en fait, les jeunes-là ne sont pas dupes. Hein. Ils ont bien compris que si leurs aînés travaillent jusqu'à 62, voire 67 ans, comme le propose la réforme, ils ne laisseront plus leur place au travail pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc du coup, ces jeunes-là, ils ont bien compris que la question du chômage des jeunes et de la retraite des aînés, elle était éminemment liée, et que c'est bien pour ça qu'ils rentrent dans l'action aujourd'hui.
Eh ben, oui, effectivement. Donc, je te remercie beaucoup.
Bah de rien.
Et bonne chance pour la suite.
Ouais, merci.
Salut.